Bonjour, ici Chantal Doré au micro d'Inclusion Inc., un balado sur les initiatives des entreprises pour favoriser un milieu de travail inclusif qui fait la belle part à la diversité. Inc. comme inclusion, Inc. comme incorporé, qui réfère aux entreprises ou aux organisations. Qu'elles soient à but lucratif ou à vocation sociale, les entreprises ont un rôle à jouer comme milieu d'accueil. Bonjour à tous, Chantal Doré au micro. Nous poursuivons nos entretiens pour la série de balado Inclusion Inc. Pour cet épisode, nous recevons Chloé Frélon, fondatrice de URL, cabinet conseil en EDI pour organisation innovante. Chloé co-signe entre autres une lettre dans Le Devoir intitulée « L'EDI, une amie qui vous veut du bien ». Alors, on aura l'occasion de parler de tous les bienfaits de l'EDI, notamment dans ce contexte où l'EDI semble prendre un recul chez nos voisins américains. Donc, on va essayer d'éclaircir du côté du Canada, du côté du Québec, quels pourraient avoir les impacts de ce recul et surtout en quoi l'EDI nous veut du bien. Bonjour Chloé.
Bonjour Chantal, merci de m'avoir reçue.
C'est un grand plaisir. Je vois que vous avez été quand même assez innovante dans tout ce secteur-là, assez pionnière. Peut-être, je voyais un petit peu dans la recherche là, que vous avez été assez impliquée dans la création du mouvement Ensemble Inc.
Oui, donc si je me rappelle bien, un mouvement de 2021, est-ce que c'est la recherche confirme ça? Oui, c'est ça. OK, donc on l'a lancé en 2021, puis je dis on, mais honnêtement, j'avais un rôle de conseillère dans cette démarche-là. C'était beaucoup plus porté par bien d'autres personnes. Je serais malhabile de pouvoir les lister de façon exhaustive, avec un angle, donc Ensemble Inc., hein, un peu comme le nom de l'émission également, pour le Inc. d'incorporer, puis le Inc. d'inclusion également. Donc beaucoup porté dans le monde des affaires, puis qu'est-ce que le monde des affaires peut faire pour embarquer dans cette démarche. On était au Québec pas mal au balbutiement de ce que la thématique EDI allait être finalement.
Donc, entre 2021 et 2025, qu'est-ce qui s'est passé, si on avait à résumer, parce que il y a eu un certain essor de l'EDI. Ensuite, on va parler d'un recul, mais peut-être davantage du côté de nos voisins américains. Mais peut-être nous décrire là un peu la trajectoire de l'EDI au Québec depuis Ensemble Inc.
Oui, c'est drôle, hein, parce que c'est juste 5 ans, mais on dirait que c'est comme 10 ans crunché en 5 ans. Donc, moi, je qualifierais de 2020 de un peu explosion de la thématique. Donc, c'est arrivé comme un raz-de-marée, là. Vraiment, on était à zéro et puis ça a été 1000, un peu quasiment d'un coup, mais pas vraiment d'un coup non plus. Parce que le moment charnière qui a fait tout basculer, on s'entend dans le milieu pour dire que c'est le meurtre de George Floyd, mais c'est pas comme si on n'y avait pas des enjeux qui existaient depuis toujours, j'ai envie de dire, et des enjeux qui étaient connus depuis très, très longtemps. Donc, peut-être la goutte d'eau, le point de bascule qui a fait que, OK, maintenant, ça va faire, ça suffit. Dans un contexte, c'était unique, finalement, puisque c'était la pandémie, puisqu'on était chez soi, puisque la santé mentale était une question qui était déjà beaucoup discutée, que des mouvements de leadership au féminin étaient également discutés. Fait qu'il y avait comme, j'ai envie de dire, des pierres à l'édifice. Fait que une formation qui commençait à apparaître, mais qui s'est cristallisée en 2020.
Il y a eu comme un pivot, puis aussi Joyce et Chacoan.
Exactement, ouais. C'est ça. Le mot en haine à l'Université Concordia. Et en fait, finalement, l'actualité venait rejoindre ce qui se passait dans les organisations, ce que les chercheurs et chercheuses nous disaient, des dynamiques discriminatoires qui se produisaient dans le monde du travail également. Fait que là, c'est un peu la convergence de tout, finalement. Donc, la thématique a explosé en 2020. On en a beaucoup, beaucoup parlé dans l'actualité. Mais vous savez, comme moi, les entreprises, elles ont besoin de budgéter généralement une année d'avance les investissements. Donc, on en parlait beaucoup. Je l'ai pas vu se traduire en 2020 concrètement dans les organisations de façon marquante. En 2021, par contre, ça a commencé pas mal sérieusement. Et donc, 2021, 2022, 2023, puis là, c'est une ascension. Là, je monte ma main vers le ciel.
Oui, pour nos auditeurs là, qui veulent visualiser.
Exactement,
Chloé.
C'est ça, la flèche qui monte. 2024, stabilité. Là, je mettrai un plateau. Mm-hmm. Et là, 2025, peut-être un point d'interrogation. Donc, recul, pas recul. Moi, j'ai envie de dire peut-être fine-tuning, peut-être...
L'occasion de faire le point.
Peut-être que c'est plutôt ça. Enfin, tu sais, on s'en reparlerait dans un an, puis on aurait une meilleure perspective. Mais je pense que ça, dans cette explosion, comment la thématique est arrivée, c'est évident que toutes les organisations qui se disaient intéressées n'allaient pas se retrouver à être intéressées sur le long terme. Je pense que clairement, il y a peut-être un effet de bulle. Là, si vous avez connu le bug de l'an 2000, puis la bulle, c'est familier, c'est ça. C'est beaucoup, 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 beaucoup d'intérêt. Puis finalement, le ballon redégonfle, puis la poussière aussi. Puis là, on regarde qui était vraiment destiné à s'intéresser à la thématique. Donc, les organisations pour qui c'était déjà important avant que l'acronyme existe, elles vont continuer. Puis peut-être qu'elles n'utiliseront pas l'acronyme pour continuer.
Non, puis en fait, elles avaient déjà dans leur comportement, dans leur culture, un soin, un appétit pour mettre en place, pas nécessairement des programmes, mais des comportements qui étaient dans les faits naturels, qui n'étaient pas imbriqués, créés dans un programme. On n'a pas eu à les convaincre. Elles agissaient déjà avec cette mentalité-là.
Exactement. Oui, c'est ça. Donc souvent, parce que lié à leur mission directe, même si ce n'était pas un OBNL, là, juste mené à la mission de l'entreprise, ou parfois aussi parce que les fondateurs, fondatrices de l'entreprise peut-être faisaient partie d'un groupe minoritaire et donc avaient définitivement une sensibilité par rapport au sujet. Bref, il y avait des raisons qui expliquaient pourquoi ces entreprises étaient particulièrement intéressées puis continueront de l'être sur le long terme. Et entre les deux, eh ben, y en a qui se sont sans doute questionnés, bon, ben, est-ce que c'est fait pour nous? Est-ce qu'on devrait s'y intéresser? Je pense que peut-être aujourd'hui, elles se sont rendues compte, ah ben finalement non. Ou alors, oui mais, ou non mais, à nuancer, c'est ça que je veux dire. Peut-être pas autant, oui on y va, let's go, on met toutes dans ce panier-là, à une intensité qu'ils avaient prévue en 2022 et qu'ils ont peut-être nuancé aujourd'hui en 2025.
Bien, j'ai l'impression que dans à peu près tous les mouvements émergents, bon, d'abord, il y a toujours des effets de balancier dans l'histoire. On revient toujours à des antipodes. Et aussi, il y a parfois un engouement ou un cri du cœur vers, on se dit, il y a certaines inégalités, il y a certaines préoccupations sociales qui émergent. Et ensuite, quand ça se professionnalise, bien, c'est là qu'il y a toutes ces nuances. Moi, j'ai été très impliquée à une certaine époque dans tout ce qui est responsabilité sociale, donc ESG. Et au départ, c'était très, très général. Généraliste et ensuite, ça s'est spécialisé dans toutes sortes de domaines et ça a pris une autre conjoncture. Donc, c'est un petit peu normal aussi qu'on se pose la question sur nos pratiques. C'est juste qu'on regarde du côté des États-Unis. Bon, on va rappeler brièvement, là, il y a eu une coupure drastique des programmes en EDI suite à l'arrivée du président Trump au gouvernement américain. Beaucoup aussi de propos où on associe certains événements malheureux à, en fait, carrément comme si c'était la faute de l'EDI. Êtes-vous capable de nous éclairer un peu? Qu'est-ce qui se passe?
mon Dieu, est-ce que je suis capable? Je ne crois pas. Non, je pense qu'il y a définitivement des aspects qui m'échappent et peut-être de la très mauvaise foi quant à trouver le bouc émissaire. Une facilité intellectuelle manquante. qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Mais aux États-Unis, depuis l'élection de Trump, il y a comme une chasse aux sorcières au programme ODI. Donc, effectivement, le nouveau président a coupé tous les programmes qui existaient à l'interne du gouvernement. Donc, chez les fonctionnaires, ils ont tous été renvoyés, tous les départements fermés, etc. C'était le point de départ. Puis ça a continué vers, ben, si vous voulez faire des affaires avec le gouvernement, ben, vous pouvez pas faire de l'EDI. Donc, les entreprises qui veulent faire affaire. Donc, c'est forcément des entreprises qui ont une certaine grosseur, une certaine ampleur, probablement pan-américaine. Et c'est surtout des entreprises qui font parler d'elles, qui sortent des communiqués, qui ont des milliers et des milliers d'employés. Donc, c'est sûr que ces entreprises-là, en changeant leur politique EDI, puis changer, dans le sens que ça peut avoir, on a tout fermé, ou ça peut être, j'ai modifié. Je ne sais pas, j'ai vraiment pas étudié ça en détail. Mais quand ces entreprises font quelque chose, ça peut pas passer sous le radar. Leurs employés vont parler, ils vont sortir des communiqués de presse, etc. Donc, ça va forcément se faire connaître.
Oui, puis il y a les entreprises américaines. Il y a des entreprises américaines qui ont des succursales ici avec beaucoup d'emplois. On pense à Walmart, par exemple. Il y a eu vraiment des communiqués par rapport à ce recul-là, mais ils sont très implantés ici au Québec et des entreprises, justement, qui ont des filiales aux États-Unis. Donc, même si on veut affirmer haut et fort notre différence, on va en parler un petit peu plus tard là, de votre lettre au devoir. Il reste qu'au niveau des structures puis des systèmes, il y a certaines contraintes. Parce que, tu sais, si on a une branche aux États-Unis ou si on fait affaire avec les États-Unis, puis pour faire affaire, on doit justement montrer patte blanche qu'on est moins impliqué là-dedans. C'est difficile à ce moment-là pour une compagnie canadienne de maintenir ses valeurs.
On peut s'imaginer ça. Somme toute, donc... aux États-Unis, les entreprises qui ont changé leur posture par rapport à l'EDI, elles le font dans un objectif de rester légales, puisque c'est rendu quasiment illégal, là je mets des guillemets à ça, de faire de l'EDI, ou alors par souci de rester compétitrice et de continuer à pouvoir avoir des contrats avec le gouvernement. Donc, soyons clairs, c'est pas du tout la posture dans laquelle on est au Canada. Mm-hmm. Y a rien d'illégal au Canada à faire de l'EDI ou au Québec du tout. Donc, essayons de comme garder ça en tête parce qu'honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup de confusion quant à « Oh, ils font ça aux États-Unis, donc on devrait le faire. » Ben non, parce que nous, c'est un contexte légal très différent. Après, est-ce que si on fait de la business, si des entreprises canadiennes font de la business avec les États-Unis, devraient faire ça? Écoutez, je ne suis pas tant sûre que l'illégalité aux États-Unis vient jusqu'à les sous-traitants des compagnies mm-hmm. américaines.
En tout cas, on souhaite que ça ne se rende pas jusque-là.
Oui, ben, en tout cas, ce n'est pas revenu à mes mm-hmm. oreilles, ce type d'information.
Excellent. Espérons que ça en reste ainsi. Ceci dit, vous êtes suffisamment inquiète pour avoir co-signé cette lettre dans le journal Le Devoir, l'EDI, une amie qui vous veut du bien. Alors, je vous inviterais peut-être à en résumer les propos de cette lettre ouverte.
Oui, d'abord, cette lettre, je suis loin d'être la seule personne mm-hmm. à avoir travaillé dessus. En fait, on était trois. J'aimerais nommer mes collègues
avec
dedans. Émilie Ruffin et Ingrid Henriquez de Nissan. Vous vous doutez bien, ça fait pas une semaine qu'on travaille dessus. En fait, ça fait même plusieurs mois. Oserais-je dire fin novembre quand on a commencé à se dire, bon, là, il faut qu'on fasse quelque chose. Je sais plus quelle nouvelle était sortie à ce moment-là, mais ça nous semblait être la goutte d'eau qui était plus supportable. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire qui n'a pas été déjà dit aussi de mille façons différentes? Nous, on voulait célébrer, puis on voulait soutenir, puis on voulait valider les entreprises qui continuent de faire de l'EDI, qui continuent de penser que l'inclusion et la diversité, ce sont deux thématiques qui sont solidement fortes pour notre vivre ensemble, pour notre solidité économique, sociétale, etc. Fait qu'on voulait les célébrer, on voulait les applaudir, puis on voulait leur dire continuez à faire ce que vous faites, c'est important, c'est nécessaire, et ça nous correspond à nous. Et quand je dis nous, je veux dire le nous québécois. Puis il y a quelque chose d'assez ironique que je constate dans ces derniers temps, c'est que on a l'habitude au Québec de penser, et à juste titre, là, qu'on est spéciaux, mais dans le bon sens du terme, là, qu'on a des spécificités.
Nation distincte.
Exactement, qu'on ne retrouve pas ailleurs en Amérique du Nord et que regarder ce qui se fait ailleurs, ben, ça ne nous correspond pas parce que nous, on n'est pas ça. On pourrait-tu se souvenir qu'effectivement, c'est le cas et on pourrait-tu se souvenir que c'est définitivement le cas lorsqu'on parle d'inclusion également? Donc, ce qui se passe aux États-Unis se passe aux États-Unis. Les pauvres, ils dealent comme ils peuvent avec... enfin, les pauvres, peut-être pas tous les pauvres, mais nous, on est autre chose et on a le droit de faire les choses différemment. Puis, vous me demandiez tantôt, entre 2020 et 2021, l'EDI commence à évoluer. Je pense qu'on verra en 2025, peut-être même en 2026, une personnalisation de l'EDI à la québécoise. On va définir qu'est-ce que ça signifie pour nous, c'est quoi les thématiques qui sont importantes, quel angle est-ce qu'on veut prendre, quelle direction. Puis c'est sans doute de cette façon-là que ça va évoluer après la bulle du début, finalement.
Parce que c'est assez dur de prévoir une tendance générale pour ce mouvement-là, ça va.
Si quelqu'un a une boule de cristal quelque part, moi je l'ai pas. Je m'enfargerai pas à prédire ce qui se passera dans même 6 mois. Vraiment, j'en ai aucune idée.
On va prendre une courte pause, Chloé, et j'aimerais voir ensuite comment votre cabinet conseil URL conseille ses clients. Peut-être nous donner des exemples concrets de types d'interventions qui ont été faites. Studio pour le balado Inclusion Inc. Nous poursuivons notre discussion avec Chloé Frélon, fondatrice du cabinet conseil en EDI pour organisation innovante URL. Dans le nom même, la description de votre entreprise, il y a pour organisation innovante. Est-ce que vous avez développé un créneau de marché plus particulier? Je vois que vous avez travaillé pendant 15 ans dans l'industrie technologique. Est-ce que c'est un milieu qui se prêtait davantage à ces réflexions-là?
Je croyais que oui. En tout cas, c'était ma réflexion de départ, j'ai envie de dire. Venant du milieu technologique, j'ai avec évidemment un milieu industrie qui a beaucoup une grande homogénéité, en même temps qu'une forte croissance, on embauche beaucoup de personnes, on fait appel à l'immigration pour combler la pénurie de main-d'œuvre qui existe depuis toujours, j'ai envie de dire. Milieu foisonnant qui a l'habitude d'innover, évidemment, là, tu sais, on pense à des startups, des choses comme ça. Et donc, comment est-ce que on vient rentrer ces questions de représentativité, de diversité dans ce contexte-là? Je dirais que c'est pas parce qu'on fait de l'innovation en termes de produits qu'on fait forcément de l'innovation en termes de ressources humaines. J'ai envie de dire, voir, c'est absolument l'inverse. Donc ça, c'était mon premier constat lorsque
intéressant. L'inverse, est-ce que c'est la vitesse peut-être qui fait que parfois il y a certains raccourcis dans les réflexes humains? Quand on va vite, 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 des fois, on est tellement dans l'action, on est tellement dans le...
Il y a peut-être de ça, effectivement, parce que c'est une entreprise à forte croissance. Mm-hmm. Si on pense à des startups, elles ont une durée de vie, elles ont une durée de vie assez longue ou assez courte, là, très, très courte pour celles qui ne durent pas longtemps. Mais généralement, tu bâtis ta startup, puis tu vas vouloir la vendre éventuellement. Mm-hmm. Donc, tu vas beaucoup investir dans la recherche et développement, dans l'innovation du produit qui va s'acheter en bout de ligne. Évidemment, tu as besoin d'humains pour faire tout ça, mais la vision de « Ah ben, je dois aussi investir dans mes humains parce que c'est eux qui vont porter le produit », je crois que c'est une réflexion qui n'est pas toujours faite jusqu'au bout, je vais le dire comme ça. Donc, la corrélation entre les personnes qui créent les produits et l'innovation du produit, elle n'est pas toujours là.
Ben, on a vu d'ailleurs, et ça va m'amener à... Le prochain point sur lequel j'ai envie qu'on discute, on a vu dans certaines de ces industries, en fait, d'entreprises, des cas d'harcèlement psychologique, et je voudrais pas me nommer, mais je suis convaincue que nos auditeurs ont quelques noms en tête dans l'industrie du jeu vidéo, notamment. Et vous avez contribué, je crois, pour Technocompétences, là, un rapport qui scrutait un peu ces liens d'harcèlement psychologique et sexuel dans le milieu des TI.
Oui, c'est ça. Le rapport se voulait à identifier... c'est quoi les facteurs qui mettent à risque une entreprise d'avoir particulièrement du harcèlement? Est-ce qu'on peut les identifier, puis est-ce qu'on peut les communiquer pour évidemment que des entreprises soient alertes, puis soient se retrouvent pas dans cette situation-là? Il y a plusieurs éléments qui ont été identifiés, mais dans ce milieu-là, comme dans d'autres milieux, là, ça va vous sembler familier. Il y a parfois une vision où il y a des personnes dont on peut absolument pas se passer dans l'entreprise. Elles portent sur leurs épaules l'existence même de l'entreprise ou la croyance qu'elles portent.
La croyance, hein, oui, j'aime la nuance.
On peut penser à des développeurs, développeuses qui seraient extraordinaires. Puis des fois, avec ce piédestal qu'on met pour ces individus-là, il y a des passe-droits qui en découlent. Donc, si moi je me sens toute puissante, puis à l'abri de toute conséquence de mes actions, je peux peut-être m'en aller jusqu'à commettre des actions qui ne seraient pas les bienvenues dans un contexte professionnel.
J'ai entendu, pour avoir frayé un peu dans ces univers, quelque chose comme « on sait comment il est, mais il rapporte ».
Ben oui, voilà, c'est ça. Ouais, c'est, oh, mais tu sais, il a toujours été comme ça. Oh, mm-hmm. C'est pas toi, mais c'est lui, mais c'est pas grave, là, laisse faire. Ce genre de choses. Effectivement, quand entendre ce genre de phrase, c'est un peu un drapeau orange-rouge, là, mm-hmm. Selon moi. Il y a aussi dans cette industrie une familiarité relationnelle mm-hmm. Qu'on trouve peut-être pas dans, mettons, des cabinets d'avocats ou des milieux, des comptables.
Où il y a une distance qui fait en sorte que. Comme le veut l'expression québécoise, on se garde une petite gêne.
On se garde une petite gêne, c'est ça. Et donc, si finalement, dans ton lieu de travail, ben, mm-hmm. Il y a une table de ping-pong, ouais. puis un frigo avec des bières pour le vendredi soir, mm. Et puis que souvent le jeudi, ben, finalement, tu restes plus tard parce que tu finis à 18h ton travail, mais bon, quelqu'un a ouvert une bière, puis ah oh, oui, d'accord, on va boire une bière. Finalement, la zone de qu'est-ce qu'est le travail, qu'est-ce qu'est pas le travail, devient un peu floutée. Ouais. Des fois, l'alcool est assez normalisé dans ce genre de contexte. Bref. Un peu une recette pour se mm-hmm. retrouver avec du harcèlement si on fait pas attention à tout ça.
Oui, c'est un bon point. Puis effectivement, c'est des milieux où on a vu beaucoup d'initiatives RH, où on se pensait innovante en disant on va changer leurs pneus, on va s'occuper, on va créer des garderies en milieu de travail. Et en tout cas, pour avoir un peu réfléchi à tout ce qui est responsabilité sociale, c'est un peu comme si on vous dépossède de vos responsabilités, puis on dit ben il y a plus de raison de retourner à la maison. Finalement, on est une grande famille, on s'occupe de tout pour vous. Donc ces frontières-là deviennent floues.
Ouais. Exactement, ouais. Si en plus tu rentres plus vraiment chez vous, honnêtement des situations où tu manges tes trois repas à la job puis que
le déjeuner t'es... magnifique fait par notre traiteur et notre barista et tout ça, bon.
C'est ça. Puis peut-être il y a même un petit coin pour te reposer parce que mm-hmm. comme ça tu peux travailler plus longtemps, tu peux faire plus d'heures puis tu peux être plus productive entre guillemets, même si c'est évidemment pas vrai. Ces notions-là sont pas mal présentes. J'aime à croire qu'en 2025 là on commence à se rendre compte que c'était peut-être pas la formule mm-hmm. la plus idéale, mais 2010, je pense qu'on était complètement ouais, dedans ouais. et qu'on y croyait à 100%. Et donc, effectivement, là, c'était pas vraiment les bonnes recettes. Ceci dit, les scandales qu'il y a dans le milieu technologique, elles datent pas de 2010. Hein. Mm-hmm. On en a depuis toujours, j'ai envie de dire, là, depuis que c'est devenu une profession puis une industrie dans laquelle travailler. Donc, c'est pas l'étape de ping-pong qui crée du harcèlement.
On fera pas de tel raccourci de pensée, en effet. De quelle manière vous accompagnez vos clients face à des risques potentiels du genre?
Nos clients viennent surtout nous voir plus pour des questions liées à la diversité. Mais ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, nous, on est basé à Montréal, puis la majorité de nos clients sont quand même, somme toute, à Montréal ou dans des centres urbains. Et le constat que je peux faire entre 2020, dont on parlait, puis 2025, c'est qu'en 2020, la question était un peu plus autour de comment est-ce que je peux avoir plus de diversité? Je constate que ma main-d'œuvre est homogène, tout le monde est pareil dans mon équipe, comment est-ce que je peux changer ça, etc. En 2025, on a fait beaucoup d'efforts. On a plus de diversité. Et là, maintenant, le bas blesse, c'est l'inclusion qu'il faut aborder. Et là, on se rend compte que, ah ben, coudonc, d'avoir des gens très différents autour de la table, c'est pas super pour avoir peut-être des communications optimales.
Ça demande plus de défis.
Ça demande plus oui. de défis, ça demande plus d'efforts. Oui. L'inclusion, ça arrive pas par magie. Là. L'inclusion, ça arrive toujours parce que on a réfléchi et que les choses se font, finalement. On est plus dans cette réflexion-là de collaboration, de le vivre ensemble. On y revient, là encore. Mm-hmm. Et comment est-ce que les gens peuvent communiquer, être productifs, se sentir bien dans l'entreprise. Fait que les interventions qu'on va faire vont plus être autour de ces éléments-là. Et c'est évidemment ultra difficile parce que là, on parle de humain à humain. Vous arrivez avec votre vécu, vos croyances, vos perceptions. Moi, j'arrive avec les miens, puis des fois, ils s'opposent drastiquement. Donc, et les conséquences de cette opposition, ça se traduit dans l'ambiance de travail, dans les relations, dans la productivité éventuellement, etc.
J'ai pu observer une certaine dichotomie où certains milieux, on parle beaucoup de bienveillance, de sécurité psychologique, des articles qui sont sur les intranets. Dans les comportements, et même parfois de certains gestionnaires, en ce qu'on définit comme de la bienveillance et ce qu'on observe, il y a parfois des gros paradoxes. Comment un employé arrive à pas vivre à un moment donné une déconnexion ou même à la limite ressentir un certain sarcasme, de l'ironie ou devenir désengagé quand ils voient quand ils comprennent et le comportement de certains gestionnaires, il y a un grand écart?
Mon Dieu, la question à un million, qu'est-ce qu'on fait avec ça lorsqu'on est salarié? Je pense qu'on peut commencer par rassembler des informations. À notre époque, en 2025, là, quand même, on a mis à jour les risques psychosociaux en entreprise. La Commission des droits de la personne et de la jeunesse produit beaucoup de contenu. Il y a quand même beaucoup d'informations sur essayer de savoir qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui est illégal, ou peut-être, et quelle est la zone de gris.
Mais plus du côté d'un gestionnaire, par exemple, est-ce qu'il y a moyen d'influencer un gestionnaire à adopter des meilleurs comportements si c'est peut-être pas dans sa nature ou dans son éducation, disons?
De la part de l'employé?
De l'employeur.
De l'employeur.
Ouais.
Souvent, donc il y a beaucoup de... Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de pression qu'on met sur les gestionnaires, surtout les gestionnaires de premier niveau, pour justement développer toutes ces compétences-là où on l'a peut-être pas accompagné à le faire. Donc définitivement, si on se rend compte que c'est un enjeu dans le relationnel puis dans la productivité, il va falloir assumer que c'est un enjeu. Dans le sens... pas penser que c'est peut-être juste lié à cette personne-là ou à ce contexte-là en particulier, mais peut-être que j'ai un problème un peu plus d'envergure de l'entreprise. On va proposer des choses qui sont vraiment pas attirantes pour les entreprises, mais j'ai la profonde croyance que c'est nécessaire, des formes de guide de comportement. Voilà les actions qu'on va vouloir valoriser, les actions qu'on préférait ne pas voir dans l'entreprise. Voilà les conséquences à faire cette action, à ne pas faire cette action. Et voilà l'escalade si jamais le comportement est pas développé ou qu'il y a une fréquence qu'on voudrait pas. Souvent, les employeurs vont avoir l'impression que c'est infantilisant pour leur gestionnaire de créer ce genre d'outils-là. Vraiment, je suis vraiment complètement croyante que c'est absolument nécessaire. Assumer que tout le monde sache qu'est-ce que c'est un bon comportement, un bon employé, c'est assumer vraiment beaucoup de choses, surtout dans ce contexte de diversité dont on parle depuis tantôt. Là.
Exact. C'est diversité. Qu'est-ce que ça veut dire, le respect, par exemple? C'est une valeur qu'on a vue abondamment sur tous les murs, mais quand on la définit pour l'un et pour l'autre, donc ce que je comprends, Chloé, c'est quand on rajoute la diversité par-dessus ça, il faut d'abord se donner des définitions communes et s'engager autour de ces comportements.
Exactement. Et donc, un certain courage managérial qui va venir avec ça, assumer ce que ça signifie, assumer que peut-être qu'on n'a pas embauché que des personnes qui se retrouvent dans cette définition-là et puis qu'on va devoir revoir les choses ou offrir un cadre d'évolution aux individus, au moins. Mais oui, il va falloir avoir des réflexions.
Merci beaucoup, Chloé Frélon, fondatrice du cabinet conseil en EDI URL. Et je vous invite à lire la lettre ouverte dans le journal Le Devoir, l'EDI, cet ami qui vous veut du bien. Merci beaucoup, Chloé, d'avoir été avec nous.
Merci, Chantal. Merci.